I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La prochaine histoire n'a rien à voir avec le Covid ou la pandémie. J'ai découvert cette histoire par une interview sur Internet. Et vous l'avez peut-être vu aussi. Dès que j'ai vu cette femme raconter son histoire, je me suis dit que c'était parfait pour la veiller. C'est une histoire qui est partie d'une simple idée qui a pris les proportions d'un monument. Merci d'applaudir très fort, Caroline.
Quand j'étais petite, j'avais une fenêtre qui fermait mal. Elle s'ouvrait tout le temps dès qu'il y avait un coup de vent. Et mes parents étaient souvent absents, j'avais assez peur. Et quand j'avais 7 ans, mon père m'a emmené tout en haut de la tour Eiffel et il m'a offert ceci qui était plein de bonbons. J'ai mangé tous les bonbons, j'ai gardé la tour. Et j'ai pris l'habitude de dormir avec la tour. C'est mon doudou. C'est une arme également. Je dormais donc pas sous l'oreiller, sinon j'aurais des problèmes de... juste au-dessus de l'oreiller. J'ai dormi avec ce doudou de l'âge de 7 ans à peu près à l'âge de 12-13 ans. Quelques années plus tard, à 29 ans, j'avais publié 5 romans, je décide de partir à Los Angeles. Je voulais devenir scénariste de cinéma et j'avais rencontré un producteur français qui s'appelle René Kleppmann, qui a disparu malheureusement depuis, qui m'a dit quand on veut être scénariste, la sensibilité européenne, c'est très bien, mais il faut la technique de la structure scénaristique à l'américaine. Ils sont très forts. Personne ne dépasse les Américains pour ça. Donc, j'ai réussi à partir aux États-Unis. J'étais dans une résidence étudiante avec beaucoup de monde dans la même résidence étudiante, dans le quartier le plus pourri de Los Angeles, mais c'était une école très prestigieuse qui s'appelle USC. Je ne savais pas qu'elle était prestigieuse à l'époque. C'est la seule qui m'a acceptée. UCLA m'a refusé, d'autres m'ont refusé. Et donc les profs nous disent, il faut aller tout de suite frapper aux portes. Vous êtes là, il faut aller en même temps que vous étudiez la technique scénaristique, il faut aller frapper aux portes, vous présenter dans les studios, etc. Donc je le fais. Hein, moi, je suis partie à 14 000 km. Allons-y. Hein, donc j'appelle des gens, je me présente. Et aux États-Unis, les gens sont toujours sympas parce que la mentalité américaine, c'est que tout le monde a peur de passer à côté de l'idée du siècle. Donc vous êtes toujours reçu, même par le président. Je veux dire, c'est incroyable. Vous avez une chance, mais on vous la donne toujours. Donc je suis reçue et je me retrouve notamment devant une fille qui s'appelle... je ne peux pas donner son vrai nom. Bref, une fille dans un studio qui est Sony Columbia. Et elle me reçoit. On est interrompu tout le temps parce qu'elle a des coups de fil tout le temps. Et donc, je n'arrive pas à lui dire ce que je veux lui dire, c'est-à-dire lui proposer deux comédies romantiques que j'ai en tête. Et une particulièrement qui s'appelait Rent a Friend. Bon. Ami à louer, donc. Et donc, j'essaye de lui pitcher mon histoire, mais je suis interrompue vraiment. Tous les deux mots, je suis interrompue. Et c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, ça doit être comme ça à Hollywood, je ne connaissais pas. Et donc, tout ça dure à peu près, je sais pas, 40 minutes. Et elle raccroche finalement d'un de ses nombreux coups de fil, et elle me sort un CD-ROM, et elle me dit, en fait, vous perdez votre temps, parce que nous, aux États-Unis, on veut bien recevoir tout le monde, mais on ne fera travailler que des scénaristes américains. Mais c'est sympa d'être venu, bah, au revoir, salut. Hein. Donc, je sors de là, et je me dis, merde. J'ai fait 14 000 km, j'ai mis tout mon argent, j'habite dans une espèce de résidence un peu pourrie, etc. Enfin, j'essaie de m'en sortir et de que ma vie s'améliore, et cette fille vient de se foutre de ma gueule, finalement. Donc je sors un peu énervée, et en sortant, je fais pas gaffe, et je percute en sortant du studio, enfin de l'immeuble. Comme j'ai la tête baissée, je percute un mec de plein fouet, une espèce de mec très chic. Et c'est le patron. C'est le grand producteur, patron de l'énorme truc. Et il me dit, oh là là, vous m'avez bien énervé. Et je lui dis, oui, effectivement, je suis un peu énervé. Il me dit, ah, vous avez un accent français, vous. Oui. Il dit, alors, une Française qui sort de chez moi qui est énervée, je veux comprendre pourquoi elle est énervée. Donc, il me dit, venez dans mon bureau. OK. Hein. Je me retrouve dans une espèce de bureau de star avec rien que son bureau, il va de là à là-bas. Évidemment, les pieds sur la table, sinon ce ne serait pas un grand producteur. On propose des boissons. Alors, il y a une panoplie de boissons, je veux dire, thé glacé à tous les parfums. Enfin, il y a tout avec sucre, sans sucre, etc. Et il me dit, alors, c'est quoi d'abord, à qui vous avez présenté le truc? Donc, je dis à ma chinette, la Fiona. D'accord. Hein, donc, racontez-moi votre histoire. Là, vous aviez une histoire à pitcher, allez-y. Donc, je commence à raconter mon histoire. Très mignonne, petite comédie romantique. Et il me dit, c'est vraiment très bon, c'est vraiment bien, vous avez vraiment un talent pour ça, mais alors votre fin est particulièrement conne. Votre fin est vraiment nulle, c'est dommage parce que c'était bien quand même, hein. Là, le début bien, le milieu bien, vers la fin bien, mais la fin c'est vraiment juste merdique. Vous avez autre chose? Je dis oui, alors moi je ne me démine pas. Hein, bon. Et je vais donc, la deuxième histoire, c'était l'adaptation que je voulais faire d'un de mes romans qui s'appelle Le Souligneur, que j'ai publié quand j'avais genre 23 ans, donc à ce moment-là, quand j'ai 29 ans, au moment où je suis dans ce bureau. Et donc, je lui raconte l'histoire. Il me dit, ah, c'est super, mais j'adore. Mais alors, votre fin, c'est marrant, vous avez un problème avec les fins. Hein. Votre fin, elle est vraiment nulle. Hein. On n'y arrivera pas, en fait. Hein. Vous êtes bonne, vous trouvez les sujets, mais la fin est vraiment conne. Bon, ben, voilà. Hein. Enfin, vous avez peut-être autre chose. Vous avez donné une autre histoire. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai sorti mon doudou de sous mon oreiller. C'est-à-dire, je lui ai dit, oui, j'ai autre chose. Mais c'est trop beau pour vous, c'est trop grand pour vous, c'est trop cher pour vous. Et il m'a dit, mais attendez, rien n'est trop cher pour moi. Je lui ai dit, bah si, là, c'est vraiment trop cher pour vous, et de toute façon, c'est tellement beau que, en fait, j'ai juste pas envie de vous raconter l'histoire. Je n'avais aucune histoire. Je n'avais aucune idée, je n'avais rien. Et là, le mec est devant moi, hyper intéressé, il a enlevé les pieds de la table, et il me dit, qu'est-ce que c'est? Et là, je me dis, merde, faut que je trouve genre tout de suite un truc absolument génial. Ok, mais quoi? Et je lui dis, c'est énorme. C'est international. Et je finis par dire, c'est une histoire d'amour. Ok, donc là, extraordinaire. Il se lève, il est genre très très agité. Allez, dites-moi, donnez-moi un indice. Et je lui dis, la Tour Eiffel. Gustave Eiffel a construit la Tour Eiffel pour une femme qu'il a follement aimée et dont le prénom commençait par un A. Je suis la seule à connaître cette histoire. Il appuie sur son buzzer et il dit à Jane, « Jane, préparez-moi un contrat. » J'avais absolument tout inventé, ok? À ce stade, je ne connais rien de la vie du CFL. Je ne sais pas si l'histoire de la Tour Eiffel que la forme d'un A, ok, bah oui, bon, enfin, ça, on a un peu tous remarqué. J'ai complètement inventé tout parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon doudou de sous mon oreiller parce que c'est pas quelqu'un qui rentrait par la fenêtre, mais il m'a juste terriblement emmerdé. C'est ma vraie Tour Eiffel peinte avec de la gouache quand j'avais 8 ans. Il y a différentes couleurs et des paillettes au-dessus. Bon. Et donc, je rentre chez moi dans ma résidence étudiante en sueur en me disant, ma pauvre, tu as un contrat avec un mec hyper important d'un studio majeur sur une histoire que tu viens d'inventer qui engage juste la Tour Eiffel. Hein, donc Eiffel, c'est juste un peu la France. Hein. Bon, je peux aussi réinventer des histoires comme ça, mais bon. Donc, je rentre dans un état de stress et de sueur d'apocalypse, et j'appelle un de mes copains à Paris, et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux être sympa avec moi et aller dans n'importe quelle librairie, tu m'achètes des livres sur Gustave Eiffel ou sur la Tour Eiffel, parce que je pense que je viens de faire une énorme connerie. Et donc, je reçois par FedEx, et je dis, je te rembourserai quand je viens à Paris, je te rembourserai, achète tout, etc. Je reçois un paquet FedEx avec plein de trucs sur Gustave Eiffel, et je découvre que Gustave Eiffel, quand il était jeune, a follement aimé une femme qui s'appelait Adrienne. On les a séparés de façon absolument dégueulasse. Et ensuite, lui s'est marié, sa femme est morte jeune, il avait 5 enfants. Et ensuite, plus aucune histoire d'amour. Rien. C'est-à-dire que, à partir de l'âge de 50 ans, lui, il n'a plus jamais eu le cœur qui a palpité. Enfin, il n'y a personne, il n'y a rien. Et je me dis, ah, est-ce que Adrienne aurait pu revenir? L'air de rien. Alors, ils se sont follement aimés, on les a séparés en lui disant à lui, je regarde l'heure, 8 minutes. 26. J'en ai 12. Et donc, j'écris l'histoire, je décide d'inventer qu'ils se sont retrouvés après. Je contacte la famille Eiffel et on me dit, il n'y a pas de problème, On ne connaît pas sa vie après, on ne sait pas. Il s'est sûrement passé des choses dans sa vie amoureuse, mais on ne sait pas. En tout cas, ça ne nous dérange pas. Je me dis, OK, bon. J'investigue, je construis. Je prends des cours dans cette école où on m'apprend à construire en 3 actes. On m'apprend à écrire un scénario de film. C'est le truc le plus difficile au monde. C'est-à-dire que c'est un niveau d'architecture mentale avec des intrigues, des sous-intrigues, des trucs. C'est de l'orfèvrerie. Et je travaille pendant 1 an et demi sur ce scénario. Pour ce producteur. Finalement, le truc se retrouve chez Paramount, et Paramount dit « Ok, on fait le film. D'accord. » Et il se trouve que mon producteur ne me l'a pas dit. En fait, mon producteur était affilié à Sony Columbia, mais Sony Columbia ne voulait pas, donc on l'a porté chez Paramount. Et chez Paramount, donc il y a un réalisateur qui veut faire le film, qui vient de faire un énorme succès, des centaines de millions, enfin bref, tout va très bien. Et on arrive chez la présidente de Paramount qui dit super, elle a une table en fer forgé, genre Auguste Eiffel. Je me dis waouh, c'est un signe. Hollywood, c'est la chanson d'Aznavour, je me voyais déjà, etc. Très contente, moi. Voilà, donc on me dit on va s'occuper de vos papiers, vous allez pouvoir rester aux États-Unis, le film va se faire, tout est greenlighté, comme on dit là-bas. Génial, je suis extatique, on sort du rendez-vous, on va sur le parking, et là arrive une blonde superbe qui aperçoit donc moi, mon producteur, le réalisateur, et elle s'arrête net, et elle dit à mon... elle dit au réalisateur, mais c'est avec lui que tu vas faire ce film, et donc ils partent se parler en couple séparément. Et mon producteur part, il me plante là, ça c'est dans le parking de la Paramount, hein, et mon producteur me dit, moi je rentre, je pars. Il peut attendre 2 minutes que l'autre il parle avec sa femme, non, ok, il part. Et le projet s'effondre parce qu'en réalité, mon producteur était l'ex de la femme du réalisateur. Ok. Mais que mon producteur avait changé de nom entre-temps, parce qu'il avait voulu, il avait un nom avant, il avait voulu faire un changement de nom. Donc, en fait, on ne pouvait pas savoir que c'était le même jusqu'à ce qu'il se croise sur ce parking. Donc, moi, j'étais la reine de la ville et soudain, tout s'effondre. C'est pas grave. Je l'ai un peu mal pris, donc j'ai un peu pleuré. C'était très important de mettre en route mon système lacrymal, par ailleurs, hyper performant, parce que ça a continué après. Ce film est passé par 6 producteurs et 6 réalisateurs. Il s'est planté 5 fois. Et tout ça a duré, ben voilà, j'ai 54 ans, le film est sorti l'année dernière et j'ai écrit ce film à 29 ans. Et j'ai vécu les trucs les plus fous, j'ai tellement pleuré, je pense que j'aurais pu faire des litres et des litres. Et j'ai un petit garçon qui est là, qui est bon petit garçon, qui a 13 ans, qui a vu sa mère pleurer tout le temps et comprenait pas pourquoi. Et quand le film est sorti l'année dernière, je lui dis, ben voilà, c'est pour ça. Et donc, ce que je voulais vous dire juste avant que mes 12 minutes se terminent, c'est la contribution au monde. Pourquoi est-ce que j'ai voulu et pourquoi je me suis obstinée alors que il m'est arrivé les trucs les plus dingues sur ce scénario ? C'est-à-dire que tous les problèmes les plus improbables, je les ai tous eus. On a voulu me prendre mon nom. Il y a eu Luc Besson. Ridley Scott a voulu faire le film. Enfin, des gens incroyables. Tout le monde a voulu faire ce film. On disait que c'était le plus beau scénario de Paris. Et je me suis obstinée, et je ne comprends pas très bien pourquoi je me suis obstinée, mais je crois que je me suis obstinée parce que c'est la question fondamentale et existentielle de la contribution au monde. Je crois que nous avons tous envie d'apporter quelque chose de beau à ce monde. Et la question, c'est comment on fait et comment on contribue. Chacun va contribuer avec son talent, certains en faisant des gâteaux merveilleux que j'adore manger, d'autres en faisant des films, etc. Et je crois que je me suis obstinée parce que je voulais désespérément apporter quelque chose au monde, et aussi pour une autre raison, qui est une raison d'enfance, c'est que toute ma vie, on m'a dit « toi, tu ne finis jamais ce que tu commences ». Et ça, on me l'a dit quand j'avais 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc. On m'a toujours dit « tu ne finis pas ce que tu commences ». Et je pense que sur Eiffel, j'ai vraiment montré que je finissais ce que je commençais. C'est-à-dire que ça a mis 29-54, donc on peut faire le calcul. Je pense que ça fait 25 ans porte-à-porte. J'ai terminé. Le film est au cinéma. Alors, il n'est pas exactement comme j'aurais voulu, mais il existe. Et je l'aime. Il est à 70% ce dont j'ai rêvé jour et nuit. Et voilà, toutes les larmes. Et maintenant... j'en parle calmement parce que il y a encore, je pense, 3 mois, j'aurais pas été capable de faire une phrase tellement je pleurais. Et j'ai pas arrêté de pleurer. Et aujourd'hui, je ne pleure plus. Et je suis très heureuse de vous parler de cette histoire sans pleurer, ce qui est très inédit. Et de vous montrer cette tour Eiffel que personne n'a jamais vue avant vous, à part mon fils. Voilà.